Soyez les bienvenus, le journal Sébastien Legenny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, des médicaments de moins en moins efficaces. Un constat alarmant qui touche l'Europe entière. La résistance aux antibiotiques a plus que doublé ces 10 dernières années. Explication du service santé dans un instant. Le grand débat n'a pas entamé la conviction des gilets jaunes avec un acte 10 équivalent à l'acte 9. Mais les petits débats, en revanche, commencent à germer un peu partout en France. Direction le sud-ouest dans ce journal. Au mieux également, la croissance chinoise qui ralentit moins de 7% par an, du jamais vu depuis 30 ans. Alexandre Benalla et ses passeports devant les sénateurs aujourd'hui et du théâtre pour terminer avec des clowns partis sur les traces de Kim Jong-un.
Le dramaturge et écrivain Jean-Claude Grimbert, auteur de La plus précieuse des marchandises aux éditions du Seuil, est l'invité de Léa Salamé, je vous le rappelle. Rendez-vous dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Notre résistance, Sébastien, aux antibiotiques ne cesse d'augmenter.
Oui, les antibiotiques ont certes permis de faire reculer, on le sait, la mortalité, mais leur utilisation de plus en plus massive a conduit à l'apparition de bactéries résistantes à ces médicaments. Et cette antibio-résistance, comme on dit, a plus que doublé en Europe entre 2007 et 2015. Ce sont des chiffres d'une étude du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Une situation inquiétante qui nécessite une prise de conscience mondiale. Les précisions de Véronique Julia.
672 000 cas d'antibiorésistance recensés en Europe en 2015, 33 000 morts associés. Pour bien mesurer l'ampleur du phénomène, les chercheurs aiment citer le nombre d'années perdues ou gâchées en Europe à cause de ce fléau. On n'est pas loin du million et la France n'a pas de quoi pavoiser. Elle est le sixième pays touché par ces infections résistantes, après notamment l'Italie et la Grèce. D'après l'étude, les infections nosocomiales contractées donc à l'hôpital représentent plus de 60% du phénomène. L'hôpital fait pourtant des efforts. Depuis quelques années, la France a réduit les infections à staphylocoque par des mesures d'hygiène plus systématiques. En revanche, ce qu'on appelle les entérobactéries sont de plus en plus résistantes et donc de plus en plus inquiétantes. Mélanie Collomb-Cotina est épidémiologiste à Santé publique France.
Ce sont des bactéries très communes dans notre tube digestif. Ça peut provoquer des infections urinaires, des infections pulmonaires. Il reste encore une classe d'antibiotiques qui est efficace, donc c'est des antibiotiques qu'on dit de dernier recours. Malheureusement, on voit déjà émerger en France, comme dans d'autres pays européens, des bactéries qui deviennent également résistantes à cet antibiotique de dernier recours.
On le sait, une trop grande prise d'antibiotiques nuit à leur efficacité. En France, leur consommation en médecine de ville continue d'augmenter. Le gouvernement voudrait pourtant la réduire de 25% d'ici 2020.
Véronique Julia, spécialiste santé à France Inter.
7h33, le grand débat, lui, n'aura pas réussi à faire retomber la fièvre des gilets jaunes.
84 000 manifestants comptabilisés samedi, presque autant que la semaine d'avant, malgré le lancement du grand débat par Emmanuel Macron. Un débat que s'approprient lentement les Français. 600 débats ont été organisés jusqu'ici, dont 40% organisés par les maires et 40% par de simples citoyens, comme ici à Marciac dans le Gers, où un habitant s'est lancé dans l'organisation d'une réunion dans la salle des fêtes. Faible affluence, mais forte concentration. Le reportage de Mathilde Dehimy.
Lionel avait pourtant testé son matériel.
Là, vous m'entendez ?
Demandé une salle à la mairie, informé du débat par quelques affiches. Seules 24 personnes sont présentes, parfois gilets jaunes, venues de loin. Elles échangent sur leur quotidien, CSG, petits salaires, trop d'administration par Internet.
Plus de services, plus d'entreprises, plus rien.
Et cherchent partout des solutions.
Moi, je suis pour le vote blanc, pour le vote obligatoire. En plus, les gilets jaunes veulent le RIC, pourquoi pas, pour qu'on puisse s'exprimer, etc. À condition que ce ne soit pas tous les dimanches d'aller mettre un bulletin dans l'urne. Hein.
Je crois que ce n'est pas un problème de moyens financiers, c'est surtout un problème de répartition de ces moyens.
Il faut aussi que nous, on s'y colle. Si on refuse de rentrer dans l'action, ça ne peut pas marcher.
Le maire de Marciac répond sur des dépenses publiques jugées en général peu transparentes.
Vous avez un droit de regard sur l'ensemble des actions portées par les élus. Encore faut-il que vous acceptiez d'exercer vos droits.
Roman, calepin à la main, propose un autre modèle d'élection présidentielle.
Soit le président écoutera nos demandes, c'est ce que j'espère, soit il n'écoutera rien du tout et ça aurait été juste une grande mascarade.
Lionel, l'organisateur, ne regrette rien.
J'ai fait mon devoir, il faut prendre toutes les possibilités qui nous sont offertes. Les deux ne sont pas incompatibles, on peut aussi débattre et manifester.
Et espère que d'autres habitants organiseront à leur tour un débat. Marciac, Mathilde Dehimi, France Inter.
Et à noter ce petit rectificatif, 600 débats ont été déclarés, non pas organisés à ce stade. À noter aussi que ce lundi, les Français pourront commencer à déposer leurs contributions directement sur Internet, sur la plateforme granddébat.fr, mais pas seulement. D'autres sites vous proposent de contribuer au débat, des sites indépendants, alternatifs. On vous aide à vous y retrouver sur franceinter.fr. Voilà un rapport qui va donner des arguments d'ailleurs aux Gilets jaunes. Le rapport de l'ONG Oxfam, qui comme chaque année poursuit son état des lieux des inégalités dans le monde. Une comparaison, par exemple, à retenir. Le budget du ministère de la Santé, éthiopien correspond à 1% de la fortune de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, dont la richesse a atteint l'an dernier 112 milliards de dollars. Les milliardaires qui sont deux fois plus nombreux qu'il y a 10 ans. Milliardaires encore avec la succession à venir de l'un d'entre eux, Carlos Ghosn. Comme l'a demandé l'État actionnaire, le conseil d'administration de Renault se réunira cette semaine. À noter cette déclaration du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire. Non, le scénario d'une fusion entre Renault et Nissan n'est pas sur la table, malgré des informations relayées par la presse japonaise. Et voilà où un pays où les milliardaires encore commencent cette fois-ci à s'inquiéter. Direction la Chine, où les nuages s'accumulent sur la croissance économique. Ce matin, le Bureau national des statistiques à Pékin a annoncé les chiffres de la croissance annuelle chinoise pour 2018. Croissance à 6,6% quand même, son plus faible niveau toutefois depuis près de 30 ans. À Pékin, Dominique André.
Une croissance de 6,6% en 2018, voilà qui ferait la joie de beaucoup de pays. Mais pour la Chine, le malaise est profond. Cette croissance, la plus faible depuis trois décennies, s'inscrit dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis, auquel s'ajoute une chute des bourses chinoises de 28% l'an dernier, la pire performance boursière au monde. De grandes entreprises comme Apple et dans le secteur automobile ont annoncé une baisse de leurs ventes en Chine. L'économiste Wang Fujong, expert renommé à Pékin, analyse les causes de ce ralentissement.
Nous avons un gros problème de ralentissement économique et la cause principale est chinoise. Depuis deux ans, beaucoup d'entreprises étrangères sont parties ou sont en train de partir. Les causes sont multiples. Il existe par exemple la contrainte pour les entreprises étrangères de transférer une part de technologie et les droits de propriété intellectuelle. Les impôts aussi sont très lourds. Le coût de la main-d'œuvre augmente constamment. Les bénéfices réduisent et à cela s'ajoutent toutes sortes de barrières réglementaires qui leur posent problème.
Ce ralentissement n'est pas une bonne nouvelle. L'économie chinoise est intégrée au monde. La moitié du charbon mondial ou du porc sont achetés par la Chine. Un malaise durable aurait un impact sur l'économie mondiale. Pékin, Dominique André, France Inter.
Le Mexique sous le choc après l'explosion vendredi dernier d'un oléoduc percé par des trafiquants clandestins. Le bilan s'est encore alourdi cette nuit. 85 morts. Des villageois venus remplir leurs bidons d'essence et pris au piège de ce gigantesque brasier. Autre incendie dramatique en France, dans la très chic station de Courchevel, un bâtiment hébergeant des saisonniers a pris feu sans raison apparente. Pour le moment, les deux morts, en revanche, ont été identifiés d'origine comorienne, selon nos confrères de France Bleu, Pays de Savoie.
7h38, d'où viennent les nombreux passeports d'Alexandre Benalla?
Question au cœur aujourd'hui d'un nouvel interrogatoire pour l'ex-chargé de mission de l'Élysée. Après sa mise en examen devant les magistrats ce week-end dans ce dossier, Alexandre Benalla va maintenant passer entre les mains des sénateurs. Commission d'enquête parlementaire suite et bientôt fin. Sauf que l'audition de cet après-midi s'est semée d'embûches pour les élus. Interdit de poser des questions sur l'instruction judiciaire en cours. Les explications de Jean-Philippe Degnaud.
Il y a d'un côté un juge d'instruction qui cherche la responsabilité propre d'Alexandre Benalla dans l'utilisation des passeports qu'il n'aurait pas dû conserver après son départ de l'Élysée. Et puis, il y a cette commission d'enquête du Sénat qui cherche d'éventuels dysfonctionnements dans les services de l'État. Sur la forme donc, les parlementaires ne peuvent pas poser de questions qui permettraient de mettre au jour des délits qu'Alexandre Benalla aurait commis. En revanche, l'ancien collaborateur de l'Élysée aura la possibilité de dire qui lui a permis de garder ou de récupérer les documents incriminés. Et il ne devrait pas s'en priver, d'autant que la semaine dernière, lors de son audition devant cette même commission, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strauda, avait chargé Alexandre Benalla, le soupçonnant même d'avoir falsifié une lettre en tête pour obtenir un passeport supplémentaire. Un point sur lequel la justice estime pour l'instant ne pas avoir suffisamment d'éléments pour le mettre en cause. L'audition d'Alexandre Benalla va donc permettre d'en savoir plus sur la rocambolesque histoire des passeports, mais surtout de mesurer le rapport de force qu'il va engager avec ses anciens employeurs.
Jean-Philippe Degnaud, chef du service police-justice de France Inter. Un autre Alexandre aussi devant la justice, mais anglais cette fois. Il s'agit d'Alexandre Djouri, l'homme d'affaires recherché par les juges d'instruction français du pôle financier de Paris, qui le tiennent pour un des possibles rouages du financement
financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Son audience d'extradition commence aujourd'hui à Londres. Plus de transparence, voilà ce que demande le défenseur des droits, selon Le Monde, qui s'est procuré une décision de Jacques Toubon ce matin et qui demande à ce que les critères de tri pour classer les candidatures des futurs bacheliers soient rendus publics.
Et on termine, Sébastien, par une pièce de théâtre aux confins de l'absurde et de la politique.
Pyongyang espionné par des clowns français. L'idée est venue d'une troupe de Caen, la Cité Théâtre. Olivier Lopez et ses comédiens se sont immergés clandestinement dans la société nord-coréenne pour écrire un spectacle. Bienvenue en Corée du Nord, Stéphane Capron.
Olivier Lopez et ses comédiens sont partis avec des visas touristiques à Pyongyang avec l'idée d'utiliser la forme clownesque pour raconter ce voyage au cœur de cette dictature. Sur place, ils ont montré patte blanche.
On a joué le jeu des touristes silencieux et qui même suivions, on va dire, les indications proposées leur régime, voire même enthousiastes. Nous redoutions en fait même des représailles si les autorités prenaient conscience qu'on était là pour leur faire un spectacle dans le dos. On n'a pas parlé aux Nord-Coréens parce qu'il était interdit dans la loi nord-coréenne de parler aux étrangers.
Néanmoins, Olivier Lopez ne peut s'empêcher de réagir lorsqu'il visite une école et découvre dans les couloirs des photos de guerre, une imagerie violente qui vise à faire détester l'ennemi américain et japonais.
Quand moi je suis intervenu après auprès du guide en lui disant « Mais comment vous pouvez montrer des images de corps décharnés, d'enfants meurtris par des bombardements à des enfants qui ont 3 ans ou 4 ans pourquoi vous faites ça ?» Et le guide m'a dit « Mais chez nous, vous savez, c'est comme ça, l'éducation commence très très tôt. » Et je lui dis « Mais c'est pas de l'éducation, vous êtes en train de traumatiser vos enfants là. » Et donc j'imagine évidemment qu'on est le dernier groupe de touristes à être passé dans cette école.
Les comédiens ont tiré de leur voyage des personnages fragiles et drôles. Ce spectacle dresse un portrait glaçant et clownesque de l'une des pires dictature de la planète.
Voilà, des clowns à Pyongyang, bienvenue en Corée du Nord, c'est jusqu'au 29 janvier au théâtre de Belleville à Paris.
Merci Sébastien Legénie.